C'est vraiment une méthodologie qui te permet d'aller chercher de l'acquisition, de l'expansion et de la conversion avec le produit lui-même versus des méthodologies qui sont plus axées sur les ventes directes. Donc, tu bâtis une équipe de vendeurs qui, après ça, qui donne ça à l'équipe produit qui bâtit selon ce qui a été vendu. Donc, product-led growth, c'est l'inverse. Donc, on bâtit un produit qui est vraiment aimé des utilisateurs et non nécessairement de l'acheteur. Puis après ça, on trouve la façon de la commercialiser puis de l'amener dans les mains.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 103e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Le cofondateur derrière une des marques employeurs les plus connues au Québec est avec nous aujourd'hui afin de nous parler de culture, développement, mais surtout d'adaptation. Guillaume Roy, qui est derrière la création de G-Soft, a pris de son précieux temps aujourd'hui afin de nous expliquer comment l'entreprise québécoise, qui va bientôt atteindre 100 millions de chiffre d'affaires, a fait pour se transformer de prestataire de services à créateur de produits. Lancée à la base comme une firme en technologie, l'organisation a rapidement pris une vision produit et par la suite lancé ShareGate, Office Vibe ainsi que SoftStart. Reconnue également comme une entreprise avec une culture organisationnelle remarquable, G-Soft a dû adapter son approche via le travail au bureau pendant la COVID-19. Et Guillaume nous explique donc comment l'entreprise a pris la décision de changer totalement de modèle en adoptant une approche remote first. Sans plus attendre, ma discussion avec Guillaume Roy. Guillaume Roy, vous êtes le cofondateur de l'entreprise G-Soft qui regroupe sous son entité les organisations ShareGate, Office Vibe ainsi que SoftStart. Lancée à la base comme une firme de services, G-Soft s'est grandement repositionné dans les dernières années en devenant 100% une entreprise de produits technologiques qui s'est grandement imposée comme une marque employeur connue et reconnue. Tu mentionnais également avant le podcast que vous allez bientôt atteindre près de 100 millions en revenus annuels. Guillaume Roy, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci Antoine de me recevoir, je suis super content d'être là.
Guillaume, je suis certain que comme moi aujourd'hui, notre audience aimerait beaucoup savoir comment s'est créé G-Soft à la base. Peux-tu nous ramener un peu à 2006, au moment du lancement de l'entreprise?
Ouais, donc 2006, c'était une grosse année de mon côté. Donc, je viens de Québec. J'ai déménagé à Montréal pour aller à l'ETS, l'École de technologie supérieure en ingénierie logicielle. Puis, dès la première journée à l'initiation, j'ai rencontré Simon Debain, mon partner. Donc, j'ai pas besoin de vous dire qu'on était très jeunes. On avait 20 ans quand on s'est rencontrés. À 21 ans, on a démarré G-Soft. Donc, notre objectif, c'est d'amener un vent de fraîcheur dans le monde des TI. Dans ce temps-là, c'était beaucoup de gros projets, des CGI de ce monde, des projets de milliards de dollars, tu sais, qui explosaient les coûts à la base et tout ça. Donc, nous autres, on se demandait, c'était, ça n'a pas de bon sens que ça soit ça, bâtir du logiciel. There's a better way to do it, d'une certaine façon. Fait que, on a décidé de partir la compagnie. On était trois, moi, Simon et Sébastien. Puis, on s'est lancé à pieds joints dans l'aventure.
Puis, vous étiez une firme de services à la base, donc dans le volet TI technologique. Donc, peux-tu nous dire un peu c'était quoi? Si vous faisiez des sites web, des applications, qu'est-ce que vous faisiez spécifiquement à la base en 2006?
Ouais. À la création de l'entreprise, sérieusement, on faisait n'importe quoi. Donc, je vais être bien franc avec toi, là, c'était n'importe quel mandat technologique. On parlait aux clients, on regardait comment qu'on était capable de le faire, puis on y allait. Puis ça nous a permis, tu sais, de vraiment apprendre comment ça se passe en entreprise, toucher différents types de technologies, différents types de projets. Donc pour nous, ça nous a permis vraiment de s'ouvrir les yeux sur ce monde du travail-là aussi à 21 ans. Donc on était jeunes aussi avec peu d'expérience, donc c'est aussi nos premières expériences.
Donc 2006, l'entreprise est fondée.
Est-ce que dès le départ, vous commencez à trouver des clients un peu? Est-ce qu'il y a un petit peu de traction qui se déroule dans votre entreprise ou ça prend quelques années là, avant que les clients commencent à venir à vous puis vous avez peut-être des mandats de plus grande envergure?
Ça a été très lent comme départ, pour être honnête avec toi. On était trois, donc trouver trois mandats à la base, c'était déjà un grand défi pour nous. Donc, de se trouver quelques mandats, puis je dirais que c'est de fil en aiguille avec les mandats qu'on faisait, toujours avec la bonne qualité, avec beaucoup de dedication puis de motivation qu'on mettait dans nos projets. Donc, c'est beaucoup du bouche-à-oreille. Donc, on faisait un mandat pour telle firme qui nous référait à la prochaine firme. Puis là, ça nous permettait aussi de recruter une personne supplémentaire ou deux, je pense, la première année, 3-4 de plus la deuxième année, et ainsi de suite. Donc, ça a pris quand même un certain moment, je te dirais un 3-4 ans avant de pouvoir appeler ça comme d'avoir une bonne gang, là, une vingtaine, trentaine de personnes. Là.
OK. Puis, je suis curieux, donc toi, à la base, quand vous faisiez là, davantage du service à l'époque, es-tu capable de nous dire un peu c'était quoi les rôles de qui? Donc, toi, Guillaume Roy, qu'est-ce que tu faisais? Tes deux autres partners, c'était quoi leur rôle? Parce que des fois, on a des rôles très définis en tant qu'associé dans une organisation. Des fois, malheureusement, au départ, on se pile un peu sur les pieds. Ça ressemblait à quoi un petit peu cette architecture-là là, de qui fait quoi au départ de G-Soft?
Ouais, c'est une bonne question. De mon côté, en fait, on était trois techniciens en informatique. Donc, les trois, on avait des bases en développement logiciel. Donc, on se mettait tous les mains à la pâte. On n'avait pas de rôle prédéfini. Donc, on essayait de faire le maximum de ce qu'on pouvait chacun de notre côté. Donc, on était chacun en mandat. Puis après ça, dans l'overtime ou l'extra time, on avait chacun nos forces, nos faiblesses. Donc, Simon travaillait beaucoup au niveau du développement des affaires quand on a démarré. De mon côté, j'étais toujours le plus geek de la gang. Donc, souvent, j'entreprenais les projets un peu plus technologiques ou plus complexes. Et Sébastien aussi, lui, il était très bon en consultation, donc d'aller voir des clients puis de se présenter. Donc, on utilisait chacun nos forces pour le bien de G-Soft. Là.
Donc, chaque personne avait des mandats, chaque personne aidait un petit peu à l'organisation. C'est tout le temps ça, souvent, au départ d'une entreprise. Puis, bon, on a parlé que vous faisiez du service, mais ce qui est intéressant, si on analyse très précisément G-Soft, c'est que vous avez vraiment connu deux vies. Donc, si on analyse bien, puis ça, c'est le cas pour beaucoup d'organisations. Beaucoup d'entreprises, souvent, il y a un départ et là, m'amener un gros pivot dans l'entreprise et l'entreprise a par la suite une image, un visage totalement différent. Et d'un point de vue externe, c'est ça que G-Soft m'envoie un petit peu comme vision. Donc, pour donner un petit peu de contexte à l'audience aujourd'hui, donc l'entreprise a été fondée en 2006. Tu me disais également avant le podcast que vous avez commencé à faire du produit technologique pour vous en 2009. Vous avez même décidé en 2017 d'arrêter totalement la prestation de service et uniquement de se concentrer sur les produits que j'ai mentionnés en introduction. Donc, ShareGate, ça a été le premier. Office Vibe, ça a été le deuxième. Là, il y a le dernier SoftStart qui a été lancé dans les derniers temps. Peux-tu me dire un petit peu aujourd'hui, quelle a été l'anecdote, l'élément déclencheur de se dire, « Hey, on fait du service, mais pourquoi on commencerait pas à faire nos propres produits? » Es-tu capable de nous parler un petit peu des coulisses, des anecdotes derrière ça?
Ouais, c'est super intéressant parce que je pense que, comme tu le disais si bien, on a commencé en 2009 à travailler sur notre premier produit, mais ça l'a toujours été dans notre fibre, à moi, Simon et Sébastien, de bâtir du produit. Donc, on était une gang de passionnés de génie logiciel depuis nos débuts. On parle beaucoup de nos produits forts qui ont fonctionné, mais il y a aussi beaucoup de produits qui ont pas fonctionné.
OK.
Je te dirais, tu sais, il y a peut-être une dizaine d'essais de produits qu'on a essayé de commercialiser. Des fois, c'est le mauvais moment. Dans le cas de ShareGate, c'était un bon moment, ça a fonctionné, c'est une bonne idée. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui se développe à travers le temps. D'un côté. Puis, côté anecdote, tu sais, pour ShareGate, c'était vraiment drôle, là, dans le fond, parce que, veux pas, dans nos mandats de service, on travaillait beaucoup avec des clients pour bâtir, par exemple, des intranets. Les intranets, dans le temps, ça se travaillait beaucoup avec SharePoint, la technologie une des technologies que ShareGate aide aujourd'hui à travailler avec. Puis, on se rappelle, c'est Sébastien qui est revenu d'une conférence SharePoint. Il était tout simplement découragé par l'offre qu'il voyait dans ce marché-là, dans ce domaine-là, puis il nous dit, tu sais, il y a sûrement une meilleure façon de régler ça, de faire des migrations de SharePoint 2007 dans le temps à SharePoint 2010, etc. Donc, tu sais, l'idée de ShareGate a vraiment émergé de Sébastien d'une conférence, puis on s'est dit, what if qu'on se bâtit ce produit-là d'une part. Puis à l'époque, pour nous, c'était bien parce que le produit allait être commercialisé en vente, mais il allait aussi aider nos projets de services pour être plus efficaces et encore meilleurs avec nos clients. Fait que dans ce temps-là, quand on l'a démarré, on avait les deux gains de faire ce produit-là.
Oui, puis parlons un petit peu, parce que ShareGate, il faut que les gens comprennent aujourd'hui, là. Tu me disais ça dans un entretien. Quand vous allez dans des conférences, là, dans votre catégorie, dans votre industrie, vous êtes vus comme des rock stars de l'industrie. Là. Les gens qui ont fondé ShareGate, les gens qui sont derrière ShareGate, les gens sont quasiment à genoux devant vous. Donc, c'est devenu immense. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de clients que ça. Parle-nous un petit peu de comment ShareGate a évolué, parce que il y a cette anecdote-là avec Sébastien à la base, certes, mais par la suite, il y a dû y avoir plusieurs itérations, plusieurs changements, plusieurs peut-être enjeux de développement. Es-tu capable de nous en parler un petit peu plus?
Oui, c'est effectivement, en fait, c'est assez comique que nos deux produits qui fonctionnent aujourd'hui, ShareGate et Office Vibe, ont une histoire un petit peu similaire. Donc, après la premier 18 mois d'investissement, on s'est rendu compte que le produit ne fonctionnait pas.
Okay.
On n'était pas capable de le vendre, pas capable d'amener des clients à l'essayer et à les utiliser. Donc, dans les deux cas, on a reparti from scratch notre produit après, tu sais, un 12 à 18 mois d'investissement en technologie puis en marketing. Et qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est que à la fin de la journée, c'est quand qu'on trouve, on appelle ça notre product market fit. Donc, quand on trouve vraiment cette niche-là,
le segment de clientèle qui veut notre
exactement,
produit.
Exactement, qui veut le produit puis qui est prêt à nous donner la chance et qu'on est capable aussi de résoudre leurs problèmes.
Bien sûr.
Ben avec le marché d'aujourd'hui, quand tu as accès à des millions d'entreprises dans le monde, ben tu es capable de faire lever ce produit-là. Donc, je pense que j'ai divagué un petit peu sur ta question. Je sais pas si tu peux la répéter.
En gros, ben, c'est ça, parce que ShareGate, c'est devenu énorme.
Ouais.
Et puis, parle-nous un peu, tu sais, des techniques du volet de commercialisation de ShareGate. Donc, je sais que dans des entretiens préalables, tu m'as parlé d'un concept qui est fondamental chez GSoft et qui est appliqué et fait par beaucoup de personnes dans l'industrie maintenant, qu'on appelle ça le product led to growth. Donc, j'imagine que d'intégrer certains features, pardonnez-moi l'anglicisme, à l'intérieur du produit pour qu'ils soient davantage partagés, pour que davantage de personnes en parlent avec leur entourage. Est-ce que c'est ça un petit peu qui a propulsé ShareGate vers le succès qu'on connaît aujourd'hui?
Définitivement. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on a un terme pour le product-led growth. C'est un terme qui est connu dans notre monde, dans le monde d'aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, quand on a démarré ShareGate, on utilisait les mêmes concepts. Donc, en gros, le product-led growth, là, pour vous expliquer, parce que ça reste peut-être un petit peu plus axé dans le domaine des TI. C'est vraiment une méthodologie qui permet d'aller chercher de l'acquisition, de l'expansion et de la conversion avec le produit lui-même. Donc, versus des méthodologies qui sont plus axées sur les ventes directes. Donc, tu bâtis une équipe de vendeurs, puis après ça, qui donne ça à l'équipe produit qui bâtit selon ce qui a été vendu. Donc, product-led growth, c'est l'inverse. Donc, on bâtit un produit qui est vraiment aimé des utilisateurs et non nécessairement de l'acheteur. Puis après ça, on trouve la façon de la commercialiser puis de l'amener dans les mains. Donc, ça crée des produits qui sont plus... Je vais utiliser le terme viral, mais pas dans le sens viral sur le web qu'on voit aujourd'hui, mais dans le sens où est-ce que tu as une personne qui adore ton produit parce que tu réponds très bien à son besoin. Donc, il réfère à la prochaine personne. Puis, ça crée une espèce de boule de neige qui amène ton produit à vraiment bien fonctionner. Un exemple classique de ça serait un Tesla de ce monde. Donc, Tesla sont reconnus pour avoir jamais investi $1 en marketing, de ce qu'ils disent, mais leur produit est tellement bon et leur offre globale est tellement bonne que les gens sont prêts à l'acheter puis à le référer à des amis. Donc, quand on a commencé ShareGate, ça n'existait pas vraiment le product-led growth, mais on avait vraiment cette mentalité-là. Donc, on retourne il y a 10 ans. La vente en TI, c'était je vais l'exagérer un petit peu, là, un monsieur avec une mallette qui arrivait dans une entreprise, qui vendait sa solution avec des frais d'intégration dans des serveurs locaux et tout le kit. Puis nous autres, on a décidé, tu sais, comme... Il y a une façon d'aller rejoindre ces gens-là beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Donc, on a lancé ShareGate. C'était un outil qu'on pouvait essayer en dedans de quelques minutes. C'était up and running. Tu utilisais notre outil. On installait ça à distance. On était subscription-based. Donc, on vendait des frais récurrents tous les mois dans le temps, c'était vraiment des frais fixes, un logiciel. Donc, c'était vraiment différent. Puis, ce désir de simplicité-là, ça l'a vraiment ça a vraiment fait notre modèle d'affaires à succès. Et c'est aussi pour ça, quand tu parlais qu'on était des rock stars dans le domaine, ben je pense que de mettre dans les mains des utilisateurs un outil qu'ils apprécient, qu'ils aiment, ben après ça, ben ils apprécient ta compagnie, ils apprécient les gens qui le font. Puis, je pense que ça joue pour beaucoup.
Puis par la suite, bon, bien entendu, un bon produit qui est dans les mains des bonnes personnes, le message est partagé entre différents intervenants, donc la croissance est au rendez-vous. Qu'en est-il par la suite de la commercialisation sur le moyen terme de ShareGet? Est-ce que à terme, vous avez commencé à être beaucoup plus agressif sur la commercialisation? Ou même encore aujourd'hui, c'est ce fameux amour du produit qui va vous chercher autant de clients jour après jour?
Je dirais que plus qu'on grandit quand même, on a besoin de gens qui supportent le produit, nos clients. On a besoin de gens qui sont là pour accompagner les ventes, le marketing aussi. Donc, la base reste toujours le produit. Donc, c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est notre élément différenciateur par rapport à la compétition. Donc, t'essayes un ShareGet, t'essayes un Office Vibe versus leurs compétiteurs, tu vas toujours apprécier beaucoup plus ce produit-là. Maintenant, après ça, ben c'est de s'assurer qu'on soit capable d'offrir un accompagnement vraiment bon pour ces gens-là aussi. Puis donc, je dirais que c'est un grosso modo un 60% dans le produit, 40% dans le reste des services, ce qui peut être très différent dans des compagnies plus traditionnelles où est-ce que les ventes, par exemple, pourraient être 60% des investissements puis 40% dans le produit. Donc, c'est vraiment inversé.
J'aimerais parler maintenant d'un produit que nous, chez J7 Media, on utilise et on invite l'audience aujourd'hui à aller faire un petit tour sur ce site web-là qui pourrait peut-être changer totalement la culture de votre entreprise, Office Vibe. Produit qu'on apprécie beaucoup, que je crois, Guillaume, et corrige-moi si je me trompe, je crois que tu es maintenant beaucoup plus impliqué sur Office Vibe que sur ShareGet. Peux-tu nous parler peut-être un petit peu de comment ce produit-là s'est créé à la base, puis peut-être même expliquer à l'audience fondamentalement qu'est-ce qu'Office Vibe?
Bonne question. À la base, Office Vibe, on l'a lancé en 2013, donc ça fait déjà... quasiment 8 ans que c'est lancé. Puis c'est vraiment parti, c'est drôle à dire, mais de notre culture d'entreprise d'une certaine façon. Donc, quand je te parlais en début d'entrevue que on voulait travailler d'une nouvelle façon, on voulait aider, amener un vent de fraîcheur dans le monde des TI dans le temps. Maintenant, c'est dans le monde du travail globalement. Donc, tu sais, c'est vraiment ça qui est un petit peu à la base. Puis dans nos pratiques à l'interne chez GSoft, on bâtissait toujours des petits outils. Tu sais, on est une gang d'ingénieurs, nous autres. Donc, c'est facile de développer un outil pour nous-mêmes. Donc, on bâtissait des outils pour aider l'équipe à être plus en forme. En ingénierie, on n'est pas nécessairement réputé pour avoir le mode de vie le plus actif et tout ça. Donc, il y a une année, on a bâti un petit outil pour faire ça. L'année d'après, c'était plus sur l'apprentissage. Fait que, est-ce que tu as lu des livres? Fait qu'on a bâti ça. Puis, quand on en parlait avec nos clients, leur mâchoire tomblait littéralement. Ils étaient comme, c'est donc ben malade ce que vous faites chez GSoft pour booster cette culture d'entreprise-là, l'entretenir, tout ça. Puis, c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée, justement, d'Office Vibe, qui est un outil qui te permet vraiment de bâtir, de maintenir ta culture d'entreprise en offrant, tu sais, le pouls de ton équipe, fait que l'engagement de tes employés. Est-ce que ça va bien? Est-ce que t'es à l'aise avec la rémunération, avec tes pairs, avec ton gestionnaire, etc.? Donc, on est capable de capter simplement toute cette information-là de l'entreprise et après ça, d'agir dessus. Donc, tu sais, c'est souvent ça qu'on oublie. Il y a beaucoup de compagnies qui font un survey. Après ça, le survey, c'est tablette, puis tu sais, un sondage annuel, admettons, on le tablette, puis ça reste sur les côtés, mais c'est quelque chose de dynamique, une entreprise. C'est des gens, c'est des individus, c'est des personnes qui ont besoin de sentir qu'ils sont liés à une mission d'entreprise, à un projet, à son équipe, etc. Donc, Office Vibe, c'est vraiment un outil clé en main qui te permet d'aller chercher le pouls de ton équipe, d'agir dessus, puis d'amener tes équipes plus performantes à la fin de la journée.
Puis, corrige-moi si je me trompe, Guillaume, mais ShareGet, je crois que c'est le produit phare de GSoft. Ça a été le premier que vous avez construit qui est allé chercher une bonne part de marché. Mais beaucoup de gens connaissent GSoft, spécifiquement au Québec, à cause de Office Vibe. C'est un peu votre outil marketing quasiment, là.
je sais plus si je dirais un outil marketing, mais effectivement, au Québec, on est souvent, il y a des gens qui découvrent Office Verbe, ils savent pas que c'est G-Sub, des fois c'est le contraire. Donc, le fait que, on a été publié beaucoup dans les médias dans les dernières années à propos de notre culture d'entreprise, on avait des bureaux, on faisait des choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, donc vraiment, au Québec, on est reconnu pour ça. Puis Office Verbe, c'est vraiment un peu l'extension, c'est notre façon d'aider d'autres entreprises à pouvoir mettre une meilleure culture d'entreprise en place. Donc, effectivement, au Québec, on est beaucoup plus connu avec notre produit Office Verbe, tandis que Suregate, c'est beaucoup plus à l'externe. Donc, lorsqu'on sort des frontières, Suregate est très, très fort.
Intéressant. Donc, on a parlé un petit peu des différents produits que vous avez présentement chez G-Sof, Guillaume. Puis j'aimerais que tu me dises un peu aujourd'hui comment que ça s'est déroulé, les changements au niveau de votre culture d'entreprise avec la pandémie. Parce que je lisais un article que Simon, ton partenaire, était impliqué récemment. Puis tu l'as dit un petit peu plus tôt, vous avez toujours un énorme bureau. Vous avez des choses assez hors de l'ordinaire. Donc, je pense que vous aviez... les gens pouvaient faire du skateboard à l'intérieur du bureau. Peut-être qu'ils peuvent le faire toujours maintenant, je sais pas. Il y a beaucoup de choses assez extravagantes à l'intérieur de votre bureau. La pandémie est arrivée et Simon avait dit dans un entretien que je pense que vous alliez couper 50% de votre espace de bureau. Vous alliez considérablement réduire le tout. Moi, je serais curieux de t'entendre un petit peu par rapport à l'évolution d'une culture d'entreprise du télétravail au cours des prochaines années, parce que là, vous avez pris la décision, vous, de devenir une organisation 100%, une organisation virtual que vous appeliez dans l'article. Donc, les gens peuvent travailler quand ils veulent de chez eux et peuvent également venir au bureau. Comment ça s'est déroulé, ces réflexions-là, ces discussions-là à l'interne?
C'est une bonne question, puis ça a été quand même... Je te dirais, les 18 derniers mois, les deux dernières années, ça a été quand même un gros changement pour G-Soft suite à la pandémie. Donc, de notre côté, ça a vraiment changé fondamentalement notre façon de travailler. Donc, la pandémie, on l'a vu comme une opportunité aussi. Donc, ça nous a permis vraiment de s'ouvrir les yeux à se dire, OK, on a une culture d'entreprise avec des gens, un bureau qui est vraiment, vraiment nice. On a investi beaucoup de ressources dans cet espace de travail-là parce que on considérait que la dynamique d'une équipe, la proximité des gens allait pouvoir nous amener une innovation qui est plus d'innovation, en fait, plus de productivité, etc. Puis, suite à la pandémie, ben ça nous a forcé définitivement à revoir cet aspect-là de l'entreprise. Puis, on s'est dit... OK, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais let's make the best out of it. Donc, on s'est dit, essayons d'adapter notre façon de travailler à une façon qui est un peu plus, je vais appeler ça asynchrone, donc d'être capable de travailler à distance, à notre rythme, avec une flexibilité pour les gens. Parce que je pense que c'est ça, à la fin de la journée, la plus grande différence, c'est que le travail à distance te permet une flexibilité. On n'est plus obligé d'aller de 8 à 5 avec une horaire précise au bureau. On est capable de travailler de la maison sur une beaucoup plus grande période de temps. Ça ne veut pas dire qu'on travaille plus, mais ça te donne la flexibilité de travailler au moment que tu sens le plus productif, que tu sens que tu peux en amener le plus à l'équipe. Donc, on a essayé ça. On l'a découvert, on s'est fait... Puis pour nous, c'est un très gros changement. Là. Comme je dis, on était culturellement, façon de travailler, tout était très, très axé sur l'équipe, l'individu, la proximité des gens. Du jour au lendemain, on tombe de façon déconnectée. Ceci dit, on a appris énormément. On a vu certaines de nos faiblesses en travaillant à distance sur l'organisation, la documentation, sur des éléments de vision des fois qui se partageaient très organiquement. Plus qu'on grossit, plus que c'est difficile aussi cette portion-là. Fait qu'on a appris énormément là-dessus. Puis d'un côté, puis de l'autre côté, ça nous a permis, au point de vue de l'entreprise, de notre vision de créer des meilleurs environnements de travail à l'aide de nos produits. Ben on s'est rendu compte que, OK, la pandémie, le travail distribué, le travail digital first, remote first, il y a toutes sortes de termes autour de ça, mais tu sais, le travail reviendra pas à ce que c'était avant. Ça, je pense qu'on peut l'affirmer aujourd'hui.
Wow, ouais.
On va voir dans les prochaines années, là, mais on sent que ça c'est là pour rester. Fait que là, nous autres, ça nous donne une belle opportunité de repenser justement à ces outils-là. parce que les gens sont de plus en plus souvent sur leur ordinateur, bien entendu avec le travail à distance. Donc, comment qu'on fait pour amener cette expérience digitale à l'aide de produits technologiques pour améliorer la vie des gens au travail? Donc, c'est vraiment, pour nous, ça nous a ouvert les yeux, puis on s'est dit, je pense qu'on est mieux de continuer comme ça. On se met dans la peau de nos clients, on vit ce que nos futurs clients vont vivre en étant, tu sais, digital first, remote first. On va apprendre des problématiques, on va apprendre de qu'est-ce qui se passe concrètement de cette façon-là, des défis que ça l'amène, que ça soit dans des environnements pour Sharegate, Office Vibe et notre nouveau produit SoftStart qui est né de tout ça. Donc, je vais en parler un petit peu là, de SoftStart. Donc, comment t'onboard, comment t'accueilles une nouvelle personne dans une équipe, dans une entreprise à distance, c'est un défi qui est surprenamment difficile. Puis je suis pas mal certain que la majorité des auditeurs en ce moment ont vécu ce défi-là dans les 12 derniers mois. C'est difficile. Puis il manque une couche de culture, il manque une couche de savoir. Il y a des choses, il y a une proximité qui manque pour vraiment que la personne se sente à pleine capacité dans l'entreprise. Donc, notre produit SoftStart, ben, c'est une belle matérialisation de cette vision-là, d'aider ces entreprises-là à accueillir les gens qui se sentent chez eux, qui se sentent avec tous leurs outils, qui puissent se connecter avec des nouveaux collègues, avec les boss, avec n'importe qui, mais comme d'être capable d'être bien accueilli au sein de l'entreprise, ben ça, c'est le genre d'opportunité qu'on a vu avec SoftStart suite à la pandémie.
Là. Donc là, vous avez coupé, c'est ça, vous avez coupé le bureau en deux, je pense. Ça ressemble à ça, là, présentement?
Ouais. On avait un bureau qui, avec, c'est drôle, là, parce que le building était fait, qu'il y avait une allée entre nos deux sections de bureau. Donc, on a fermé la moitié du bureau.
Puis là, présentement, c'est quoi? C'est 50, 60, 70% de vos forces qui sont à distance? Y a-t-il beaucoup de gens qui sont au bureau? Comment vous voyez ça un peu?
Ben, en ce moment, nous autres, dans le fond, notre politique, c'est la flexibilité illimitée. Donc, peu importe t'es qui, tu peux travailler 100% de ton temps de la maison ou 100% de ton temps au bureau, c'est comme tu le veux. Donc, je te dirais qu'en ce moment, depuis la rentrée, on a environ, je dirais peut-être un 10% des gens qui viennent au bureau à tous les jours. Donc, je te dirais que malgré le fait qu'on a un espace de travail incroyable, une place, tout ça, les gens aiment travailler de la maison, aiment cette flexibilité-là. Puis pour nous, c'est fait que le bureau devient vraiment secondaire, ça devient une place où est-ce que tu peux y aller, ça te tente. Il y a des meetings d'équipe des fois qui se passent. Exact. Les gens, on se rejoint toute la gang, on s'en va au bureau aujourd'hui. On fête la fête de quelqu'un. C'est comme ça devient vraiment quelque chose de secondaire au travail.
Non, je pense que c'est une bonne vision. Puis est-ce que d'autres, parce que vous êtes des pros de la culture d'entreprise, donc on va en profiter, on va poser des questions aujourd'hui. Est-ce que d'autres choses, d'autres trucs, d'autres, peut-être même de la documentation que vous avez été capable de voir quand vous avez construit SoftStart, des choses là, fondamentales que les entreprises oublient en ce moment, dans cette ère-là, post-pandémie-là, dans cette ère remote first-là, que des entreprises doivent intégrer dans leur culture d'entreprise? Qu'en est-il des soirées d'équipe? Qu'en est-il des réunions qui sont peut-être plus trimestrielles ou est-ce que c'est des réunions importantes qu'habituellement, c'est important peut-être de faire en face-à-face, mais que là, dans les dernières années, on a fait beaucoup à distance. Y a-t-il des éléments comme ça que vous avez entourés puis que tu pourrais peut-être même donner des recommandations aux gens qui nous écoutent aujourd'hui?
C'est une question à 1 000 $, je pense, celle-là. Parce que
On en profite.
Parce que, tu sais, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on a creusé beaucoup, qu'on vit tout ça. T'sais. Une chose qui est certaine, c'est que, puis les études le prouvent, là, les employés, les gens, lorsqu'ils travaillent de la maison, se sentent un peu plus seul, parfois déconnecté un petit peu avec le reste de l'organisation, que ce soit les valeurs, la stratégie. Il y a certaines personnes que c'est le sentiment d'avoir un collègue proche qui est le plus important pour eux dans leur travail, tu sais. Donc, cette situation-là amène définitivement des défis supplémentaires à l'organisation. Puis, ceci dit, je pense pas qu'il y a des façons miracles de régler tous les problèmes parce que chaque culture de chaque entreprise est unique, doit s'adapter. Fait que, de faire des rencontres à tous les mois, je pense pas qu'il va y avoir de trucs très, très précis à utiliser, mais je pense que ce qui est important, je pense que ce que toutes les entreprises doivent faire pour maintenir une culture, c'est d'aller chercher le pouls des gens. Puis je veux pas faire un pitch pour Office Vibe parce que c'est pas mon genre, mais c'est super important et surtout dans des périodes de crise, c'est récolte l'information, va chercher comment les gens se sentent, va chercher qu'est-ce qu'ils ont besoin et agis là-dessus. c'est beaucoup plus facile de le faire de cette façon-là que de lire un blog post de la top compagnie qui travaille remote depuis déjà 4 ans puis d'essayer d'implémenter un système déjà en place. Fait que le conseil que je peux te donner, c'est prends le temps d'écouter ton équipe, tes gens, puis il y a souvent des bonnes idées qui émergent, qui vont être spécifiques à votre culture, mais tu sais que ça va émerger, puis ça va être facile à mettre en place.
Intéressant.
Ouais.
Puis c'est quoi l'avenir un peu, avant que je te pose des questions personnelles, là, ça ressemble à quoi l'avenir de GSoft, Guillaume?
Ben, l'avenir de GSoft, on en a parlé quand même beaucoup avec l'ère post-pandémique, là. Donc nous autres, c'est notre nouvelle direction, c'est quelque chose qu'on va continuer. On est là pour rester aussi, on n'a pas de plan clair de « dans 5 ans, c'est… » Non, on est une compagnie technologique, on veut rester là 10, 20, 30, 40 ans, name it, ça nous passionne, on veut bâtir justement une meilleure expérience employée à l'aide de nos produits technologiques. Puis l'avenir, c'est ça. On continue. Qu'est-ce qu'on a commencé avec un scope un petit peu plus grand? On veut continuer à avoir un maximum d'impact sur l'ensemble des entreprises au monde.
Puis vous avez quasiment pas pris de capital externe, ou peut-être même aucun capital externe. Ça ressemble à quoi ça, c'est ce financement-là pour GSoft?
On est une compagnie qu'on appelle Bootstrap, donc $0 d'investissement incroyable externe dans la compagnie. C'est quelque chose qui nous rend fiers, c'est quelque chose qui nous rend aussi libres de nos décisions d'une certaine
bien
façon.
Sûr.
Donc, nous autres, non, c'est une belle fierté. On n'a aucun capital, on est là pour rester. On va trouver les meilleures façons justement de continuer à faire grandir GSoft avec les défis qu'on a aujourd'hui. Fait que, ouais.
Ben, aucun capital externe, 100 millions tout produit confondu de chiffre d'affaires, c'est exceptionnel. Félicitations pour ça, Guillaume, toi, tes partenaires, toute votre équipe, c'est une belle fierté québécoise. Puis, je terminerai sur des petites questions personnelles. Donc, toi, Guillaume, est-ce qu'il y a des livres, est-ce que tu as de la lecture spécifique qui t'a peut-être aidé dans ton cheminement en affaires dans les dernières années que tu pourrais partager avec l'audience?
Ouais, ben en fait, c'est drôle quand tu me poses la question parce que c'est comme tout entrepreneur ou chaque personne, je pense que c'est normal, on lit beaucoup, on est du monde passionné, intéressé. Donc, j'ai lu beaucoup de livres très techniques sur okay, la culture d'entreprise, sur comment bâtir du produit, etc. Dans les dernières années. Puis aujourd'hui, on dirait que je deviens plus fan de la fiction ou des façons des sujets. Donc, un des livres, j'en ai lu deux cette année que j'ai vraiment apprécié. Le premier, c'est pas de la fiction, là, mais Sapiens. J'imagine que c'est un classique aussi chez les entrepreneurs, mais vraiment mind-blown sur comment l'humain en société réagit puis comment ça se passe. Fait que ça, j'ai adoré.
On se crée des histoires.
On se crée des histoires, puis on aime ça. Donc,
exactement.
J'ai adoré Sapiens. Puis l'autre que j'ai lu cette année, puis je suis très en retard au party sur ce livre-là, mais j'ai lu Dune avec la sortie du livre. Puis sérieusement, ça faisait longtemps que j'ai... Puis je suis pas un fan de science-fiction non plus, mais ça faisait longtemps que j'ai lu un livre avec autant de réflexions à travers chacun des chapitres, tout ça. Donc, c'est super intéressant.
Podcast, t'en écoutes-tu un peu?
Podcast, pas beaucoup. Je vais être franc avec toi. J'en écoute deux une fois de temps en temps. J'ai le Think Fast, Talk Smart, que j'aime bien, puis le HBR IdeaCast. J'y vais plus par type de sujet, là. Donc, des fois, il y a des sujets qui m'intéressent, que je vais aller chercher un petit peu un avis d'expert externe, tout ça. Donc, je regarde beaucoup j'écoute beaucoup ces deux podcasts-là.
Merveilleux. Puis, est-ce que Guillaume a une routine avant, pendant et après le travail?
Elle m'a fait rire cette question-là parce que c'est comme une question classique, mais on dirait que j'ai rien de spécial dans ma routine. Seule chose que je peux dire, par contre, c'est depuis la naissance de ma fille Mila, j'ai réussi à vraiment développer des meilleures habitudes de travail. Donc, en gros, c'est vraiment la discipline. Donc, je travaille de 8 à 5, 9 à 6, une horaire assez standard. Mais pendant ce temps-là, je suis très discipliné dans le type de rencontre que je fais, dans le fait que je la travaille, mon heure. Là, donc, c'est vraiment dans mes habitudes de travail, je pense que c'est vraiment là que j'ai su vraiment faire la part des choses. Puis ça me permet de pas travailler à tous les soirs et tous les week-ends comme je faisais dans le temps.
Tu comprends. Donc, plus de productivité pour par la suite avoir plus de temps avec la famille, c'est une très bonne technique.
Exactement. Donc, pensez à soi, puis c'est ça.
Parfait, puis t'en as parlé un peu, mais si on veut en apprendre plus sur GSoft, on a une gang d'entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui. On va quoi? On va voir le site d'Office Vibe, Softstart, ça ressemble à quoi, là?
Tu vas en apprendre plus sur GSoft, gsoft.com. Donc, c'est vraiment notre point d'entrée. Il y a un lien vers tous nos produits et nos futurs produits qui vont s'en venir. Donc, et on parle aussi beaucoup de culture. Donc, nos produits, la culture GSoft, puis c'est vraiment les thématiques qu'on retrouve sur le gsoft.com.
Merveilleux. Ben, Guillaume Roy, merci énormément d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et de parler culture, parler produits, parler de développement également de logiciels technologiques. Donc, c'est très apprécié. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Toujours un plaisir de m'entretenir avec des fondateurs d'entreprises autant incroyables que GSoft. Difficile de faire mieux quand on parle de culture d'organisation au Québec. J'espère que l'entretien aura pu en inspirer plus d'un. Également, continuez à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.